Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que j'ai particulièrement attendu. Ça fait un mois que j'ai vu le film. Il sort demain au moment où j'enregistre et où je sors l'épisode. Donc vraiment, j'ai beaucoup attendu d'en parler. Mais on va parler du film Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Rien que ça. Bon, je la trouve un peu complexe en vrai, le synopsis halluciné. Voilà, donc effectivement, comme je l'ai dit, c'est un film que j'ai vu il y a un mois. Voilà, en projection presse, je remercie les équipes de BCG voilà, pour m'avoir donné cette chance. Je n'en revenais pas en fait de pouvoir dire que j'ai vu le dernier film de Miyazaki en projection presse. Enfin, c'est tellement un des plus grands génies du monde du cinéma, un des plus grands génies encore en activité. C'est une énorme chance que c'est d'avoir pu voir ce film en projection presse. Voilà, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Sincèrement, je pense qu'il se situe dans la moitié haute de Miyazaki, hein, clairement. Je le sais, enfin en tout cas, ma moitié haute à moi, je le sais, parce que le week-end dernier, il y avait un marathon Miyazaki à Bercy, et du coup, j'ai soit vu, soit revu toute sa filmographie, sauf Princesse Mononoke, que j'avais déjà vu au cinéma, dans le but de faire un classement de sa filmographie sur le blog de Salles Obscures. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. L'article n'est pas encore sorti, mais il va arriver. Mais du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était une idée de merde, parce qu'en fait Hayao Miyazaki n'a fait que des chefs-d'œuvre quasiment, voilà. Enfin vraiment, c'est, il y en a quelques-uns qui sont en dessous, mais à partir de la 10e place, c'est une torture à faire ce classement, même si pour moi il y en a 3 qui se dégagent voilà, parmi tant d'autres. C'est Le Château Ambulant, Princesse Mononoké et Chihiro. Mais j'ai découvert par exemple un film de lui que je n'avais pas vu et qui m'a beaucoup plus marqué que ce que je pensais, c'est Le Vent se lève, qui est absolument sublime. Et en fait, se dire que Le Garçon et le Héron vient se placer dans la moitié haute de sa filmographie, de son immense filmographie, avec tous ces incroyables films qu'il a fait, c'est dire la qualité du film. Sincèrement, je suis sorti, et ça m'a fait la même chose quand je l'ai revu du coup à la fin de ce marathon, merci. Je suis sorti de la projection presse en étant absolument deg, parce que j'avais envie qu'il relance le film, en fait, tellement c'est un film qui est dense, et c'est un film qui est riche dans son univers. Je pense que Miyazaki, je me suis fait la remarque, et du coup en revoyant tous ses films, effectivement, je pense que Miyazaki n'avait pas développé un univers aussi riche depuis Le Voyage de Chihiro. Voilà, quand bref, il commence à partir dans le monde d'en bas, enfin, même au niveau des couleurs, etc. Enfin, c'est absolument fou. Puis il y a tellement d'éléments. Je veux dire, il y a les pélicans, il y a les wara wara, il y a les perruches. Enfin, il y a tout ce qui tourne autour du grand-oncle, voilà, qui est clairement l'incarnation de Miyazaki, mais ça, on va en reparler. Non, c'est un film qui a des mille idées, mais voilà, même si j'adore tous les films de Miyazaki depuis Chihiro, hein, voilà, il y a Le Château Ambulant, il y a Ponyo, il y a Le Vent se lève, c'est des films que j'adore et que je trouve magnifiques. Je trouve quand même que Miyazaki n'a pas développé un tel univers depuis Chihiro, et c'est une prouesse, vraiment, ce qu'il arrive à faire, encore une fois, de maintenir un tel niveau de qualité en fait sur toute une filmographie. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Enfin, je sais pas, donnez-moi des exemples si vous en avez, mais pour le coup, moi voilà, je vois pas qui a fait mieux que Miyazaki en termes de constance dans le niveau de ses films. Et voilà, Le Garçon et le Héron, c'est vraiment l'exemple parfait. Parce que oui, au-delà de cette animation absolument splendide, voilà, hein, je vous parlais de cette scène où il arrive dans l'autre monde, voilà, cette scène avec les wala wala qui s'envolent, tout ce qui touche au feu, mais l'animation par rapport au feu dans ce film est magnifique, les couleurs sont splendides, enfin, c'est du Miyazaki, hein, tout simplement, mais c'est surtout, même dans son animation, c'est dans ses thèmes, c'est un film qui est pas pas loin de ressembler à un film somme. C'est un film quand même qui va citer énormément de ce qu'a pu faire Miyazaki par le passé, hein, les Walla Walla qui font penser aux, je crois que c'est les Sylvains que ça s'appelle dans Princesse Mononoke. On a tout le rapport aussi au deuil, hein, clairement, qui pour moi me fait penser à Chihiro, parce que pour moi Chihiro c'est un des plus grands films qui a été fait sur le deuil. Voilà, enfin c'est d'une richesse absolument folle. Il y a un peu de Totoro aussi dedans. Enfin bref, il cite énormément de films, tellement que c'est compliqué de tous vous les citer, très honnêtement, voilà, de citer toutes les références à son propre travail dans ce film. Et c'est pour ça que je dis que ça commence à ressembler à un film somme. Maintenant, on le sait maintenant, ce n'est pas le dernier film d'Hayao Miyazaki. Il a déjà commencé à travailler sur son prochain, même si celui-ci devait être son dernier. Et franchement, je sais pas si la news était déjà tombée quand j'ai vu le film, mais en tout cas, je savais que ça allait pas être son dernier, parce que quand vous regardez ce film, c'est pas un film que Miyazaki fait pour dire au revoir. C'est un film que Miyazaki fait pour préparer son au revoir, pour préparer son héritage, pour désigner potentiellement un héritier, hein, voilà, avec le personnage du grand-oncle. Voilà, mais c'est pas du tout un film que Miyazaki fait pour dire au revoir, loin de là. Je pense que le prochain sera vraiment fait pour dire au revoir et que là on va pleurer toutes les larmes de notre corps, mais pour le coup, lui, on pleure, mais c'est pas fait pour dire au revoir, voilà. Non, en fait, ce qui est assez impactant avec ce film, c'est que Miyazaki vient nous rappeler que bah écoutez, je suis vieux et je ne suis pas éternel, et en fait il va falloir quelqu'un pour me succéder, quoi, parce que voilà, je moi aussi je vieillis, et je crois que c'est littéralement une réplique du grand-oncle qui dit moi aussi je vieillis. Et effectivement, avant ce film, je n'avais pas réalisé à quel point Miyazaki était vieux, et en fait à quel point c'est terrible à dire, et je touche du bois tous les jours pour ne pas que ça arrive, mais à quel point peut nous quitter en fait très prochainement, hein, voilà, même s'il a l'air de bien se porter pour être aussi actif, voilà, à 82 ans, à son grand âge, et que j'espère qu'il va continuer à nous éblouir le plus longtemps possible. Miyazaki est vieux. Miyazaki, bien qu'il ait l'un des plus grands génies de cet art, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, Miyazaki, voilà, va bientôt partir, c'est en tout cas ce qu'il nous dit avec ce film, et il nous parle pas de partir à la retraite, je pense qu'il nous parle de partir tout court, pour moi c'est assez clair. Voilà, après je rentrerai dans une partie plus analytique là-dessus, sur pour moi le propos qu'il essaye d'instaurer, parce que j'ai des théories sur le film, elles sont peut-être un petit peu tirées par les cheveux, mais je pense que ça vaut la peine d'être évoquées. Mais donc effectivement, ouais, c'est un film quand même qui... voilà, dans sa densité, dans son mystère aussi, hein, parce que il y a beaucoup de choses, moi qui l'ai vu deux fois, il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément, voilà, tout compris. Je pense notamment à ce monde-là en équilibre, juste sur des pierres. Je pense à cette histoire avec Maito et sa mère. Voilà, enfin, c'est tellement complexe. Puis même le héron c'est un mystère total, enfin, d'où il sort, c'est quelque chose de fou, enfin, bref, il y a tellement d'idées dans le cinéma de Miyazaki. Dans tous les cas, à chaque film il y a des idées folles, que ce soit visuellement ou que ce soit dans les scénaristiques. Là il adapte un livre, comme beaucoup de fois dans sa carrière, que je n'ai pas lu, mais je me dis que ça peut être intéressant, voilà, si j'arrive à mettre la main dessus. C'est vrai que je pense que je le lirai bien volontiers, parce que j'aimerais bien savoir l'adaptation qui a été faite et comment en fait Miyazaki a tout simplement, voilà, transposé ce livre dans son film. Mais n'empêche que c'est vraiment compliqué de parler de du garçon et du héron, parce que comme je le dis, c'est tellement dense, et je pense que même au bout de 5-6 visionnages, c'est pas possible de tout comprendre, et c'est ça qui est fort avec ce film. Et quand je disais que c'était un film somme, c'est aussi dans les thèmes qui sont abordés, parce que c'est des thèmes qui sont, voilà, très chers quand même à Miyazaki. Il va nous parler d'un petit peu, beaucoup moins quand même dans ce film, mais quand même d'aviation, il va nous parler de la guerre. Je crois que c'est un des traitements les plus brutaux et les plus frontaux de la guerre, de la filmographie de Miyazaki, hein. Peut-être, en vrai, même Le Vent se lève ne la traitait pas aussi directement, parce que bon, voilà, le concepteur de l'aviation pour l'armée japonaise, mais il n'y a pas vraiment d'impact de la guerre, alors que là, c'est quand même un impact qui oblige Maito et sa famille à bouger. En fait, on sent que, bref, il y a tout un contexte guerrier qui va en partie se retrouver dans le monde d'en bas. Et en fait, ce qui est impressionnant avec ce monde d'en bas, c'est que il est quand même assez instable. Il est quand même assez instable. Et c'est là où on va rentrer dans la partie un peu analyse slash théorie. Et donc, forcément, je vais spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, allez voir Le Garçon et le Héron, bien évidemment. C'est un des meilleurs films qui est sorti cette année. C'est encore une fois un immense succès d'Hayao Miyazaki. Je vais parler avant la partie spoiler, pardon, parce que du coup, ça rentre quand même dans des remarques un petit peu générales, de la musique de Joe Hisaishi, qui, encore une fois, remarquable, qui, pour le coup, arrive à parfaitement se renouveler. Voilà, pour le coup, Joe Hisaishi, qui offre une musique qui... Alors, Miyazaki, c'est particulier, parce que Miyazaki arrive à chaque fois à se renouveler tout en gardant sa patte. Ici, Joe Hisaishi, je trouve, à beaucoup de moments, on a du mal à reconnaître un peu la patte Hisaishi, mais pourtant, ça reste une BO qui est assez belle, qui est assez bien placée, qui sait déclencher les bonnes émotions quand il faut. Donc c'est encore un formidable travail, voilà, de la collaboration, pardon, entre ces deux maîtres, voilà, Miyazaki le maître de l'animation et Hisaishi le maître de la musique au cinéma. Enfin, c'est voilà deux génies dans leur matière. Et enfin bref, c'est impressionnant et je suis tellement reconnaissant qu'on puisse vivre à la même époque qu'eux parce que enfin bref ils sont géniaux d'ailleurs voilà Joe Hisaishi que j'irai voir en concert en avril voilà j'ai très 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 hâte et donc on va pouvoir tout simplement lancer la partie un petit peu analyse pour moi le monde d'en bas il y a une forte dimension analyse et état des lieux du studio Ghibli je m'explique. Miyazaki cherche totalement un héritier, voilà. Et ce qui est impressionnant dans ce film, c'est que Miyazaki justement n'a jamais autant parlé de lui-même, que ce soit à travers le personnage du grand-oncle ou que ce soit avec le personnage de Maito. C'est vrai que bon, Le Vent se lève, on sent qu'il y a sa passion pour l'aviation qui ressort et tout, mais je trouve que c'est un de ses films les plus personnels aussi. Voilà. Donc c'est assez bon, après, c'est une vision qui est très, très égocentrique. Je ne sais pas si Miyazaki est comme ça, mais je pense qu'il y a un embryon de piste en tout cas dedans. Mais il y a un moment où, voilà, si vous avez vu le film, où le grand-oncle veut que Maito reprenne la succession. Voilà, donc c'est assez parlant en fait, voilà, que Miyazaki fasse un peu ces deux incarnations de lui-même et que la version plus âgée veuille le remettre à la version plus jeune. Du coup, je ne sais pas si Maito aussi représente quelqu'un d'autre. Voilà, mais j'ai pensé à son fils. Sauf que c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Pour moi, son fils est incarné, Gorō Miyazaki, pour ceux qui ne le savent pas, est incarné par un autre personnage qui est le roi Perruche, voilà, qui en gros, bon pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui écoutent quand même la partie spoiler, ce qui n'est pas bien, voilà. Mais donc pour ceux qui ne le savent pas, la relation entre Hayao et Gorō Miyazaki est une relation qui est très conflictuel. Voilà, il faut savoir que Miyazaki, en sortant de la projection du premier film de son fils, est sorti et a vraiment lâché un truc du style ah ouais, bah il a encore beaucoup à apprendre, quoi. Voilà. Globalement, bon, c'est vrai qu'artistiquement, les deux ne peuvent pas vraiment se blairer. Enfin, bref, c'est compliqué, voilà, la relation entre les deux. Et ça se traduit notamment par l'immonde dernier film de Gorō Miyazaki, à savoir Aya et la sorcière, qui utilisait la 3D, chose que fait Miyazaki dans ce film, hein, utiliser la 3D, mais pour le coup c'est plus subtil, c'est mieux géré, c'est pas le point central du film, mais voilà, lui c'est vrai qu'il était un petit peu réticent à la 3D pour le coup, l'utilise et l'utilise très bien. Bref, passons. Mais donc du coup c'est vrai que Gorō, bon bah prend des direction que Hayao serait loin de prendre. Et en fait, il y a vraiment ce roi Perruche qui, au bout d'un moment, veut prendre la succession. Voilà, et qui, du coup, quand le vieux ton, le grand-oncle, pardon, dit à Maito, écoute, il faut que tu empiles les pierres pour que ce monde continue d'exister. Voilà, et que celui-ci répond que en fait, il est dans tous les cas mauvais par essence parce qu'il s'est infligé sa propre blessure. Est-ce que c'est du coup Miyazaki qui est estime qu'à l'heure actuelle, il ne pourrait même pas reprendre sa propre œuvre, je ne sais pas. Mais en tout cas, juste après, il y a le roi Perruche qui arrive et qui donc est très en colère et qui veut reprendre lui-même les choses et qui donc fait une tour de pierre à la va-vite, sauf que la tour de pierre ne tient pas et s'effondre et ça crée tout simplement l'extinction du monde d'en dessous. Voilà, donc moi personnellement, après ce n'est qu'une analyse parmi d'autres, j'y vois quand même un espèce de propos sur son fils qui ouais, a voulu reprendre le flambeau, mais l'a fait mal, et du coup, bah, c'est la merde globalement chez Ghibli. Voilà, et Miyazaki a raison pour moi d'être inquiet, voilà, quand on voit que effectivement Ghibli c'était quand même un des studios qui avait quand même sa patte par essence, et enfin, juste regarder Aya la sorcière, c'est désastreux. Donc, ouais, c'est compliqué. Je sais pas si, si Yao. Aura vraiment un successeur. Je pense que c'est peut-être une bêtise d'essayer de trouver un successeur à Hayao Miyazaki, parce que c'est un réalisateur qui est absolument unique. Et pour le coup, je pense pas qu'on aura quelqu'un qui va reprendre le flambeau et qui sera à la hauteur, en fait. Voilà, quand on a un génie comme ça, c'est extrêmement compliqué. Et le fait que, du coup, ce roi perruche finisse en petite perruche, voilà, toute ridicule comme les autres, juste après qu'il ait voulu prendre de force le contrôle au grand-oncle, je me dis, ça se trouve, il y a des trucs qu'on nous a pas dit chez Ghibli. Voilà, après, ça part en théorie du complot un petit peu, mais je pense qu'en tout cas, il y a une part de vérité. Et voilà, c'est un Miyazaki qui est quand même un peu concerné pour ce qu'il va laisser derrière lui, sur qui va reprendre ce qu'il a construit, littéralement, hein, c'est le propos du film. Et je pense que voilà, en ça, il y a quelque chose de très intéressant. Maintenant, bon, bah, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, parce que je ne connais pas la vie privée de Hayao et Gorō Miyazaki. En tout cas, je trouve que voilà, c'est un film qui, tout en abordant les thèmes récurrents de Miyazaki, fait quand même part d'une réelle inquiétude voilà, de ce réalisateur-là, de ce monsieur-là. D'une réelle inquiétude, je pense, par rapport au monde en termes général, mais aussi par rapport bah, tout simplement au cinéma, hein, pour le coup, et à ce qu'il laissera derrière lui. Et ce qui tient pas dans mon analyse, c'est que Miyazaki s'est toujours, et le fait encore, refusé le manichéisme dans ses films. Et c'est ça qui fait en grande partie qu'ils sont tous absolument géniaux. Le fait est que. Ce serait peut-être un peu manichéen de rejeter la faute uniquement sur son fils. Voilà, mais dans tous les cas, je pense que c'est la première fois que je vois ouais, un film qui est autant introspectif de la part de Miyazaki, voilà, où il projette autant de lui-même, de ses inquiétudes, de ses angoisses, voilà, de son univers aussi. Mais voilà, du coup, c'est quand même un film qui voilà, moi, me laisse un petit peu perplexe, qui me laisse un goût d'inachevé. Voilà, c'est ça, en fait. C'est justement pour ça, je pense, la sensation que j'ai eue à la fin des séances où je voulais que le film redémarre, c'est cette sensation d'inachevé. Voilà, le fait de me dire, putain, il y a quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et je me dis que ce qui va l'apporter, c'est le film suivant, qui pour moi sera son dernier. Voilà, j'espère pas, hein. J'espère que si peu, il nous fera des films encore pendant 20, 30 ans. Voilà, mais voilà, comme il nous le dit avec ce film, il n'est pas éternel. Et voilà, malheureusement, c'est une réalité que je ne suis pas encore prêt à accepter. Voilà, même après un mois après avoir découvert le film, je ne suis toujours pas prêt à accepter. Je pense que lorsqu'il partira le plus tard possible, j'espère, je vais avoir besoin d'une grande période voilà, pour, de deuil, tout simplement, hein, parce que c'est une grande partie du cinéma qui partira avec lui. C'était tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura convaincu d'aller voir ce film. Dans tous les cas, vous vivez dans une période où Hayao Miyazaki a sorti un film au cinéma. Allez-y, parce que enfin, ça se représentera peut-être pas dans votre vie cette occasion si vous n'avez pas vu voilà Le Vent se lève par exemple ou enfin même Ponyo etc si vous êtes un peu plus âgé bref c'est peut-être une occasion qui se représentera pas dans votre vie donc vraiment allez-y et ne le regrettez pas parce que enfin c'est un des plus grands génies que la Terre ait connu et enfin on a tellement de la chance de pouvoir voilà, vivre en même temps que ce monsieur, que ce génie, que cet immense, que le maître, tout simplement, de l'animation. Donc, allez voir ce film, vraiment, c'est obligatoire d'aller voir ce film en salle, je pense. Voilà, si vous voulez pas avoir de regrets plus tard dans votre vie. Et je pense que, ouais, il y a quand même une véritable énigme dans ce film, une énigme, je ne sais même pas si Miyazaki en a la clé. Voilà, mais pour le coup, c'est un de ses plus intéressants à déchiffrer, voilà, mais il est quand même assez frustrant. Voilà, moi, je trouve à titre personnel qu'il est très frustrant. Donc, voilà, si ça vous a plu, je vous invite à aller lire mon article qui sortira bon, prochainement. Suivez-moi sur les réseaux ou suivez Salles Obscures pour le savoir. Ce sera annoncé. Et pour ma part, je vous dis probablement à la semaine prochaine pour un épisode un petit peu particulier parce que ce sera une critique, mais ce sera une critique où je vais évoquer, vous verrez, d'autres choses. Notamment, il y aura une interview qui sera liée à ça, qui ne sortira pas sur Daily Movies, parce que bref, elle a été faite avec un autre média. J'en dis peut-être un petit peu beaucoup. Mais dans tous les cas, voilà, je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour parler d'un film et d'un projet. Toujours est-il que j'ai très 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 hâte de vous annoncer ça. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.